quieren, tontos.
Salut à tous, bienvenue sur Bike FM 106.1, bienvenue dans votre émission métal Check Me Load. Pendant une heure, je vais vous proposer des nouveautés. Alors aujourd'hui, j'ai deux nouveautés du jour dans ma programmation. Et puis pour le reste, eh bien, on remontera un petit peu dans les semaines précédentes. On remontera jusqu'au mois d'avril plus précisément. Pour ce qui est des styles que vous allez entendre dans cette émission, bah, ce sera assez varié puisque je vous proposerai du stoner, on aura des choses un peu plus heavy, on aura du black aussi, on aura du metal alterno, du punk aussi, on va se faire un petit coup de punk en fin d'émission. Et puis pour terminer, ce sera bien évidemment l'incontournable rubrique Sortez Cover avec une petite nouveauté pour cette émission d'aujourd'hui, une petite nouveauté mais qui malgré tout va nous ramener dans les années 80. Décidément, cette décennie a été très très propice en ce qui concerne la musique. On a eu le meilleur comme le pire, mais bon, voilà, ça fait toujours l'occasion de faire de belles reprises. Eh bien écoutez, ce que je vous propose, c'est de lancer tout de suite les hostilités avec une première sortie pour ce vendredi 11 mai, une sortie qui nous vient des États-Unis, c'est le groupe Moss Generator, un groupe finalement assez peu connu mais qui mériterait de l'être plus. Aujourd'hui, le combo sort l'album Shadowlands. Alors, d'où viennent-ils les Moss Generator? Eh bien de Port Orchard, c'est à côté de Washington. C'est un groupe qui s'est fondé en 2000. C'est un power trio qui, donc, à l'époque de sa création, était composé du chanteur-guitariste clavier Tony Reed, du bassiste Scooter Asleep et du batteur Sean Johnson. Trois musiciens habitués à collaborer professionnellement et depuis de longues années, que ce soit en studio ou que ce soit sur scène. Un line-up qui s'est vu totalement chamboulé en 2015 avec l'arrivée à la basse de Sean Booth et l'arrivée à la batterie de John Garrett. Donc voilà, du trio original, il ne reste plus qu'un. Alors on est, en ce qui concerne le style, sur un stoner rock aux influences assez 70s hein, quand même dans l'ensemble. Pour ce qui est de sa discographie, à ce jour, Moss Generator a sorti 7 albums studio, dont la plupart sont très belles factures. Et malheureusement, hein, c'est ce que je vous disais, malgré un cercle de fans quand même très fidèle, eh bien la popularité du groupe reste encore trop confidentielle. C'est dommage parce que le trio de Washington mérite vraiment qu'on s'intéresse à sa musique. Mais bon, je pense que tout espoir reste encore largement permis, notamment avec la sortie aujourd'hui de Shadowlands, leur nouvel opus studio, qui sera d'ailleurs peut-être l'élément déclencheur. Alors cet album, il est décrit par son leader Tony Reed comme étant l'album le plus honnête du groupe à ce jour. Shadowlands intègre dans ses morceaux de nombreux styles musicaux assez nouveaux, qui se mélangent d'ailleurs très subtilement au son du groupe. Un équilibre que Reed cherchait déjà depuis un petit moment et que l'arrivée de ces deux nouveaux compères à la section rythmique ont permis de réaliser, hein, tout simplement. Pour qualifier musicalement Shadowlands, on peut tout à fait parler de heavy rock sauce 70s, mais mixé quand même avec quelques sonorités progressives et quelques nuances rock underground des années 80-90. Alors vous l'aurez compris, hein, Shadowlands, c'est une véritable avancée artistique pour le groupe, et ce sera sûrement pas difficile pour Most Generator de convaincre un éventail de fans de metal et de rock encore plus large. Alors si vous êtes fan de Clutch, de Fu Manchu, de Cure, ou même de Black Sabbath, je pense que ce disque doit rejoindre absolument vos discothèques et vos playlists. Si vous n'êtes pas encore tout à fait convaincu, eh bien j'ai de quoi faire pour que ce soit le cas. Voici tout de suite Most Generator, et bien justement avec le titre Shadowlands. Most Generator sur Bike FM 106.1 dans l'émission Metal Check Meload. Shadowlands, donc c'est le titre du morceau qu'on vient d'écouter, c'est également le titre de l'album qui sort aujourd'hui, Most Generator Trio, qui nous vient de Washington, qui a déjà une très belle discographie, que je vous invite à découvrir, tout comme ce nouvel album qui apporte encore de nouvelles choses, qui est riche, qui est varié, et qui est vraiment très bien. Je vous le conseille si vous avez rien de prévu ce week-end, si vous n'avez pas de musique, si vous avez savez pas trop quoi écouter, ça devrait pas mal passer ça. Et puis autre sortie du jour, alors là on va partir du côté de la Suède, on va partir dans une ville qui s'appelle Falun pour parler d'un jeune groupe qui s'appelle Follow the Cypher et qui sort donc aujourd'hui aussi son premier album qui s'appelle tout simplement Follow the Cypher. Alors Falun, cette ville suédoise, c'est pas le premier groupe qui en vient puisqu'elle a également vu naître un certain groupe qui s'appelle Sabaton, si ça vous dit quelque chose. Follow the Cypher, donc il naît en 2014, c'est un groupe qui est créé au départ comme un projet solo par le guitariste Ken Kangstrom, et ce projet va devenir un véritable groupe avec l'arrivée d'une jeune et talentueuse frontwoman du nom de Linda Tonegran, qui, au-delà de sa voix unique, possède un charisme et une personnalité assez exceptionnelle. Pour ce qui est du style, on est sur du power metal symphonique dans une version moderne et innovante. Si vous voulez, on est un petit peu à la croisée entre Nightwish, Sabaton et In Flames, hein, pour faire synthétique. Alors, en 2017, le tout jeune combo qui manifeste déjà un fort potentiel va participer au Sabaton Open Air, c'est le festival que le groupe Sabaton organise chaque été dans sa ville à Falun, et là ils vont se faire remarquer par l'équipe du prestigieux label Nuclear Blast, sur lequel sort donc aujourd'hui ce tout premier album éponyme, avec lequel le groupe compte bien je dirais presque ouvrir une nouvelle page de l'histoire du heavy metal. Follow the Cypher a en effet beau être une première production, l'univers et l'identité du groupe y sont déjà bien ancrés, hein, sans parler des compos qui sont à la fois ambitieuses, riches, impeccablement exécutées. Eh ben écoutez, ce premier opus de Follow the Cypher, il a de quoi impressionner et il laisse quand même présager le meilleur pour cette jeune formation. En voici tout de suite un extrait avec un morceau qui porte tout à fait bien son nom, c'est The Rising. Voici Follow the Cypher sur Bike FM. Le vendredi, le métal fait son show sur Bac FM. Vous êtes dans l'émission Check Me Load et vous venez d'écouter le groupe Follow the Cypher avec le titre The Rising. C'est extrait du premier album du groupe qui paraît aujourd'hui, un album qui s'appelle également Follow the Cypher. Je rappelle qu'il s'agit d'une toute jeune formation qui nous vient de Suède, de la même ville que Sabaton, et on lui souhaite le même destin. En tout cas, c'est bien parti pour eux. On va rester en Scandinavie, si vous le voulez bien, et de la Suède, nous allons partir en Norvège avec Issan, que vous connaissez déjà certainement. Alors Issan, il a sorti un nouvel album la semaine dernière, le 4 mai. Un album que je sais pas comment ça se prononce en fait, ça s'écrit AMR. Alors je sais pas si on prononce Hammer, si on prononce Amer, enfin peu importe. Tout ce que je peux vous dire qui cette fois est sûr, c'est que Issan, c'est avec le groupe Emperor, une des figures emblématiques de la scène black norvégienne dont il est un membre fondateur en 91, que le chanteur-compositeur et multi-instrumentiste Issan se fait connaître. Mais c'est la carrière solo de l'artiste qui nous intéresse aujourd'hui, une carrière qui a débuté en 2006. Alors c'est vrai que si Emperor est considéré comme étant un des pionniers du style black metal symphonique, avec son projet solo, Issan, il explore des contrées qui sont beaucoup plus progressives, avant-gardistes même. Et ça, tout ça, même si les sonorités black sont quand même encore très présentes, on peut s'en apercevoir au fil des albums. Alors c'est avec The Adversary, qui paraît en 2006, qu'on va découvrir ce projet. Il s'agit du premier volet d'une trilogie qui va être complétée ensuite par la sortie des albums Angle en 2008 et After en 2010. L'album suivant va paraître lui en 2012, il s'appelle Eremita, et là c'est un concept album qui va être inspiré de l'œuvre du philosophe allemand Friedrich Nietzsche. Le disque concept album qui était quand même très très ambitieux, on avait pu retrouver en tant qu'invité, je tenais quand même à le signaler, le Canadien Devin Townsend, et c'est un album qui avait été largement salué par la critique pour sa richesse, son avant-gardisme et sa maturité. Des qualités qu'on va retrouver également sur l'album suivant qui s'appelle Das Celebration, qui paraît en 2013 et qui est qualifié, je cite, de disque palpitant, inclassable, indémodable et magistral. En 2016, le Norvégien complétera sa discographie quasi exemplaire avec l'excellent Arctis. Et puis la semaine dernière, donc, il a dégainé Hammer, un septième album, déjà, qui berce cette fois vers un style alors plus art rock, pas hard rock, art rock ART, aux ambiances qui sont à la fois fluides et vicieuses. C'est du métal extrême sauvage, mais aussi mélancolique, mélodique, progressif, où les synthétiseurs se conjuguent à des riffs assez irrésistibles, faisant de Hammer le disque peut-être le plus accessible de Issan, tout en étant à la fois celui qui reste le plus imprégné de ses racines black metal. C'est vrai que, en fait, il y a peu d'artistes dans l'histoire du métal moderne qui peuvent revendiquer une œuvre aussi riche et variée que celle de Issan. Alors, après avoir redéfini les bases du black metal avec Emperor depuis maintenant un moment, depuis 2006, le musicien norvégien poursuit cette carrière solo qui est aussi surprenante qu'audacieuse. On écoute tout de suite Issan avec un morceau qui s'appelle Wake, extrait donc de ce nouvel album. Busan sur Back FM avec un extrait du nouvel album Hammer, on va prononcer comme ça, ça s'écrit AMR si vous le cherchez, qui est sorti le 4 mai. On vient d'écouter le morceau Wake, très très beau morceau, qui d'ailleurs, qui résume bien, mais non, mais qui est une belle illustration de ce à quoi peut ressembler ce nouvel opus de Isan, qui est, je pense, on peut déjà le dire, hein, une nouvelle pièce maîtresse dans cette très belle discographie de l'artiste norvégien. On change de style maintenant, on va aller du côté, bon, on retourne aux États-Unis, tiens, mais pas du tout avec le même style qu'on a écouté tout à l'heure. Tout à l'heure on était sur du stoner, là on va aller vraiment sur du métal alternatif avec un groupe qui a commencé à cartonner dans les années 2000, qui aux États-Unis fait une carrière assez exemplaire, hein. Ils ont énormément de disques qui se sont classés au top des charts. Ce groupe c'est Godsmack, et eux ils ont sorti un nouvel album le 27 avril, un album qui s'intitule When Legends Rise. Alors Godsmack, c'est un groupe qui nous vient du Massachusetts, d'une ville qui s'appelle Lawrence, que je ne connais pas, hein, mais allez voir sur Google, vous verrez exactement où c'est situé si vous savez, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur cette ville. Le groupe va se créer en 1995 sous l'impulsion du chanteur-guitariste Sully Erna. Alors pour ce qui est de son style, je vous disais, c'est du métal alternatif, mais quand même avec beaucoup d'influences qui viennent du heavy metal, du hard rock, du post-grunge, mais aussi du new metal. Une tendance encore assez présente dans le dernier album. Il faut dire que les membres de Godsmack sont de grands fans de Alice in Chains. On les a d'ailleurs souvent comparés à la formation de Seattle. Mais parmi les groupes qui les ont influencés, on trouve également Led Zeppelin, Black Sabbath, Aerosmith, Metallica, Pantera ou encore Rush, hein, dans un style plus progressif. À ce jour, Godsmack a sorti 7 albums studio qui ont tous connu un succès commercial phénoménal. Je vous disais tout à l'heure, en particulier aux États-Unis, où le groupe collectionne les disques d'or et de platine. Alors par exemple, son premier album éponyme paru en 98 a été certifié quadruple disque de platine. Awake, qui est paru 2 ans plus tard, a été certifié double disque de platine. Quant aux 3 albums suivants, que sont Faceless sorti en 2003, Four en 2006 et The Oracle en 2010, eh bien ils se sont tous les 3 classés à la première place du Billboard. Et là c'est que les albums, hein, je vous fais pas le détail du nombre de singles qui ont également cartonné. Mais le disque qui nous intéresse aujourd'hui, bien évidemment, c'est When Legends Rise, qui est paru fin avril. C'est un album qui arrive tout pile 20 ans après le tout premier opus du combo, qui, pour marquer le coup, a choisi non pas de céder à la facilité du fameux retour aux sources, comme on voit souvent, mais au contraire en faisant évoluer sa musique. Une musique qu'il a décidé de faire évoluer vers des contrées plus hard rock, plus variées, plus mélodiques aussi. Alors c'est puissant, c'est intense, c'est efficace, comme en témoigne d'ailleurs le titre que je vous propose d'écouter. C'est un titre qui a le même nom que l'album, hein, il s'appelle When Legends Rise, c'est lui qui ouvre l'album, qui en donne la couleur. Voici tout de suite Godsmack sur Back FM.
Fading, I'm paralyzed and left here waiting. The legend's right. We burn it out on my own. When ashes fall.
C'est Godsmack qui vous accompagne pour ce long week-end de mai. Godsmack avec le titre When Legend Rise. Vous êtes sur Back FM dans l'émission Check Me Load. Le titre de l'album qu'on vient d'écouter, c'est également When Legends Rise, donc du son américain. Un morceau très new metal hein, là quand même, mais un morceau qui donne la pêche, que j'adore. Et voilà, j'étais ravie de partager ce moment avec vous. On va se plonger dans quelque chose d'un peu plus heavy hard rock maintenant avec Gus G. Alors, Gus G a sorti le 20 avril un nouvel album, un album qui s'appelle Fearless, mais vous allez me dire, alors il y en a qui le connaissent, mais d'autres vont me dire, mais c'est qui ce Gus G? Alors en vrai, il s'appelle Kostas Karamitroudis, c'est un guitariste grec qui part aux États-Unis à l'âge de 18 ans pour intégrer le prestigieux Berklee College of Music de Boston. Là-bas, il va fonder avec d'autres compatriotes établis aux États-Unis le groupe de power metal Firewind, que vous connaissez peut-être, on en a déjà écouté sur cette émission. Et c'est avec ce groupe qu'il va se faire connaître. Mais parallèlement à ça, Gus G va également s'illustrer aux côtés de, par exemple, du groupe suédois Dream Evil, dont il est un des cofondateurs, je vais y arriver. Il participe aussi à un tas de projets, comme par exemple l'album Doomsday Machine Dark Enemy, sur lequel il apparaît en 2005. Mais surtout à partir de 2009, c'est au nom de Ozzy Osbourne que va être associé le guitariste qui a été choisi par le Madman himself pour remplacer Zakk Wylde. Alors par contre, l'histoire entre Gus G et Ozzy Osbourne s'est récemment terminée, et je crois que c'est Zakk Wylde qui est revenu dans le line-up d'Ozzy Osbourne. Enfin bon, voilà, Gus G, c'est un artiste qu'on peut qualifier tout à fait d'hyperactif. Il s'est lancé en 2014 dans une carrière solo, une carrière qui nous intéresse aujourd'hui. Alors son style, c'est du hard rock, du heavy metal, avec quelques autres influences par-ci par-là, comme un petit peu de trash, tout ça. Sous le nom de Gus G, notre virtuose de la six cordes a sorti son premier album I Am The Fire en 2014. Et pour ce premier essai en solo, il s'était d'ailleurs offert quelques invités premium. Seulement un an plus tard, en 2015, il fait son retour dans les bacs avec Brand New Revolution. Et donc, fin avril, Gus G, qui se repose décidément jamais, nous a dégainé Fearless, un troisième album solo, sur lequel il innove en nous proposant une formule, cette fois Power Trio. C'est assez rare hein, dans ce milieu heavy metal, puisqu'ici, il est accompagné, alors pas de n'importe qui, puisque vous avez Dennis Ward, qui est très connu en tant que producteur, mais aussi en tant que membre de Pink Cream 69. Donc on le retrouve là au chant et à la basse. Et de Will Hunt, le batteur d'Evanescence. Tous les deux constituent donc la partie rythmique de ce trio, bah, ainsi que le chant du coup. Une rencontre entre trois cadors de la scène métal qui fait indéniablement des étincelles, comme en témoignent les 10 compos que propose Fearless. Alors Fearless qui, malgré trois instrus, se contente pas d'être un énième album de Guitar Hero destiné seulement à un public de guitaristes, hein, c'est souvent le cas. Au contraire, hein, cet album-là propose de vraies chansons qui vont parler aussi bien aux fans de Firewind, l'autre formation de Gus G, qu'aux fans de Black Sabbath ou même de Bon Jovi. Hein, c'est pour vous dire si notre trio ratisse large et s'il a de quoi fédérer un public métal relativement varié. À noter enfin qu'en milieu d'album, Gus G nous offre une reprise du titre Money for Nothing de Dire Straits, qui est vraiment très réussi. Et d'ailleurs, on l'écoutera tout à l'heure en fin d'émission dans la rubrique Sortez Cover. Mais tout de suite, je vous propose une compo quand même. On va écouter le morceau Letting Go. C'est Gus G, extrait du nouvel album sur Mac FM.
I'm
C'était Gus G sur Back FM. La voix que vous entendez, c'était pas lui, hein, c'était Dennis Ward. En tout cas, voilà, hein, c'est le trio qu'ils ont fondé ensemble en compagnie du batteur de d'Evanescence, hein, qui s'appelle Will Hunt. Un extrait de l'album Fearless, le morceau qu'on vient d'écouter s'intitulait Letting Go. Voilà, le nouvel album de Gus G que je vous invite à découvrir. C'est son troisième album en solo et c'est toujours une valeur sûre. C'est un excellent guitariste, c'est un excellent compositeur et voilà, il nous propose un heavy metal de haute volée. J'imagine qu'on va le retrouver maintenant dans très peu de temps avec Firewind puisqu'il va d'un groupe à l'autre. Voilà, il a tout le temps besoin de travailler, ce Gus G. Et puis on le réécoutera d'ici, allez, une dizaine de minutes à peu près dans la rue. Rubrique Sortez Cover. Je vais vous parler maintenant des Guns N' Roses qui nous ont donné un petit peu de nouveautés ces derniers temps. Alors, pas de nouvel album en vue, hein. Après, est-ce que c'est si mal que ça? Je ne sais pas. Mais en tout cas, les Guns N' Roses préparent la réédition de leur album culte Appetite for Destruction qui est paru en 1987 et ils en ont profité pour nous balancer un petit morceau inédit de l'époque. Alors, après un jeu de pistes, d'affiches et de teasers sur les réseaux sociaux que vous avez probablement vu, le compte à rebours est finalement arrivé à sa fin le 4 mai avec une annonce officielle du combo culte des années 80-90. À l'occasion des 31 ans de la sortie de leur premier album, les Guns ont peaufiné une série de titres rares et inédits pour une réédition massive dans un box set ultra complet intitulé Locked and Load qui va paraître le 29 juin. Alors, outre la version remasterisée d'Appetite for Destruction, pas moins de 49 morceaux enregistrés en studio et jamais édités vont figurer dans ce coffret qui va comprendre également des covers d'Elvis Presley, d'Aerosmith, des Stones, comme au bon vieux temps. Mais attention, si vous souhaitez vous procurer cette édition ultra limitée, ben commencez à économiser dès maintenant car l'objet est affiché au prix de 1001,99€. Oui, vous avez bien compris, 1001,99€. Alors, ce qui fait un peu cher quand même si le coffret est bien complet, puisque alors, effectivement, on y trouve 4 CD, un Blu-ray audio, il propose également pléthore de goodies parmi lesquels 7 maxi singles, 7 45 tours en vinyle jaune, 12 lithographies qui illustrent chaque chanson de l'album, 5 bagues des crânes des membres du groupe en métal qui sont faits à la main, 5 pins, 5 médiators, une feutrine pour platine vinyle, des posters ou encore une clé USB en forme de croix, le tout dans une boîte de toute beauté, mais voilà, ça fait cher. Alors si vous n'êtes pas assez riche pour vous permettre l'achat de cette édition ultra premium, la réédition d'Appetite for Destruction proposera également une édition super deluxe. Alors là, il y aura quand même quelques goodies. Ce sera un peu moins cher, mais ce sera quand même 145€. Et sinon, eh bien, il y aura quand même des éditions double vinyle et double CD à des prix cette fois beaucoup plus raisonnables et accessibles. J'en profite également pour rappeler que quelques jours avant la sortie de cette réédition, les Guns, eh bien, seront de passage en France pour deux dates. Le 18 juin, ils seront au Download Festival et puis le 26 juin, ils joueront à Bordeaux. Mais voilà, on n'est pas encore au mois de juin, donc pour patienter jusque-là, je vous propose d'écouter le fameux titre inédit qui est paru la semaine dernière. Il s'intitule Shadow of Your Love et il a été enregistré au cours d'une session en 1986. Le voici en version remasterisée. C'est les Guns sur Back FM. We'll be right back. Yeah, les Guns N' Roses sur Back FM 106.1 dans l'émission Check Me Load avec le titre Shadow of Your Love, un titre enregistré en 1986 qui aurait pu se retrouver sur Appetite for Destruction paru l'année suivante, mais voilà, qui est un peu passé à l'as. Le titre ressort aujourd'hui et il sera présent donc sur le fameux Locked and Load, la box set ultra complète que va sortir le groupe le 29 juin, dans lequel on retrouvera donc la version remasterisé de cet album Appetite for Destruction qui est totalement culte et pas moins de 49 morceaux, je le rappelle, enregistrés en studio et jamais édités pour un prix très très cher de 1 001 € et quelques. Après ce que je disais tout à l'heure, il y aura aussi des versions standards pour les plus modestes et c'est tant mieux. J'espère d'ailleurs que qu'une partie des morceaux seront disponibles peut-être en streaming. Maintenant à notre époque, je crois qu'il faut en passer par là aussi. Mais voilà, du collectionneur à celui qui a juste envie de réécouter l'album, il y en aura pour tout le monde avec cette réédition des Guns qui seront en concert en France le 18 juin au Download et le 26 juin à Bordeaux. Un petit peu de punk, tiens, aujourd'hui il fait beau et tout, ça donne envie d'écouter du son californien, ça tombe bien, on va aller retrouver le groupe Pennywise. J'avais envie comme ça d'inclure un petit morceau de punk, de temps en temps je trouve que ça fait pas de mal, et puis c'est le punk, le métal, c'est des styles qui sont pas si éloignés que ça. Et Pennywise a sorti donc le 19 avril un album intitulé Never Gonna Die. Ça faisait un bon moment que le groupe avait rien sorti de véritablement nouveau. Alors Pennywise, c'est un groupe qui nous vient de Hermosa Beach, c'est en Californie, qui a 30 ans puisqu'il a été créé en 1988 par des copains de lycée. On retrouve Jim Lindbergh au chant, Fletcher Drake à la guitare, Byron McMackin à la batterie et Jason Sorsk à la basse. Alors lui, il est décédé en 1996. Pour le reste, à l'heure d'aujourd'hui, c'est ce même line-up qui est toujours présent. Il y a eu une petite période où le chanteur était parti, mais il est revenu, ça y est, il est de retour dans Pennywise. Alors, c'est quoi comme style ? Eh bien, c'est du punk hardcore mélodique aux accents skatepunk. C'est un groupe qui a été pas mal influencé par des formations comme Bad Religion, Minor Threat, TSOL. Et pour la petite anecdote, le combo tire son nom du célèbre roman de Stephen King, le roman Ça, dont le clown maléfique que tout le monde connaît, porte le nom de Pennywise dans la version originale. Dans la version française, il s'appelle Gripsou, je crois, si je dis pas de bêtises. Après la parution de 2 EP en 89, Pennywise signe un contrat avec Epitaph Records et sort en 91 son premier album éponyme, qui va connaître un grand succès auprès de la scène underground et du milieu skate de Los Angeles. Alors la popularité du groupe va se faire grandissante grâce à des albums qui vont devenir incontournables, je pense par exemple à Unknown Road en 93 ou About Time en 95, mais c'est le disque suivant, Full Circle, qui paraît en 97, qui va devenir son album emblématique, même s'il faut quand même bien l'avouer, dans les années 2000, Pennywise va sortir quelques albums phares, comme par exemple Land of the Free, qui paraît en 2001 et qui contient, on va dire, un de leurs tubes, le morceau Fuck Authority. Et si le groupe continue depuis à tourner très très régulièrement, il n'avait pas sorti de véritable nouvel album depuis 10 ans, donc inutile de dire que ce Never Gonna Die, qui est paru mi-avril, était extrêmement attendu de la part des fans, qui ont retrouvé un Pennywise toujours très en forme. Alors certes, ce nouvel album propose rien de bien révolutionnaire, mais les morceaux sont directs, efficaces, entraînants. Never Gonna Die, c'est l'album idéal pour faire la bande-son de votre été. Si vous avez envie d'un petit peu de Californie, franchement, c'est tout trouvé. Voici tout de suite Pennywise avec un morceau qui s'intitule, comme l'album, Never Gonna Die. C'est tout de suite, c'est sur Back FM.
I stay up round the world shouting
Never Gonna Die sur Back FM. C'était le groupe Pennywise du punk, donc, sur cette émission métal. Ça fait toujours du bien, ça décrasse les oreilles. Donc l'album s'appelle également Never Gonna Die. Il est paru le 19 avril. Et si vous êtes gentil, à la fin de l'émission, après le dernier morceau, je vous passerai un des tubes du groupe. Je vous passerai le titre Fuck Authority. Ça, on verra. Si vous êtes sage, peut-être on réécoutera un petit coup de Pennywise. Après tout, c'est pas tout le temps qu'on a des si longs week-ends. Il faut en profiter. Il faut se faire plaisir. Et bien, comme je vous l'avais promis tout à l'heure, on va maintenant écouter de nouveau Gus J pour terminer cette émission, mais dans le cadre cette fois de la rubrique Sortez Cover, puisque Gus J, je vous l'ai dit, a fait une reprise du cultissime Money for Nothing de Dire Straits. Alors, pour vous dire la vérité, Money for Nothing, c'est une chanson que j'apprécie pas spécialement dans sa version originale. Je suis pas très fan de Dire Straits, puis cette chanson-là a tendance franchement à me gaver quand je l'entends à la radio, par exemple. Mais je la trouve vraiment très réussie dans la version proposée par Gus J et sa bande. Donc voilà, j'avais envie quand même de la diffuser, de vous faire partager ça. Mais avant d'écouter, on va quand même faire un petit peu d'histoire. On va quand même reparler de Dire Straits, du morceau et de l'album dont il est issu. Alors Dire Straits, c'est un groupe de rock anglais qui est fondé en 1977. Il est mené par le chanteur-guitariste Mark Knopfler, que tout le monde connaît. Voilà, tout le monde se souvient de ce chanteur-guitariste avec son bandana sur la tête. Et donc, Dire Straits va connaître son premier gros succès en 1978 avec un morceau qui s'appelle Sultan of Swing. C'est extrait de son premier album éponyme. Mais c'est avec son cinquième album, Brothers in Arms, qui sort le 1er mai 1985, que Dire Straits va marquer définitivement l'histoire du rock. Alors pourquoi ils vont marquer définitivement l'histoire du rock ? Eh bien, non seulement Brothers in Arms va devenir le plus gros succès commercial du groupe, mais surtout il va être marqué par trois premières mondiales. Alors la première, c'est qu'il s'agit d'un des premiers albums de rock à être diffusé sur un tout nouveau support discographique, qui est le disque compact. Et oui, à l'époque, il en est à ses balbutiements. Brothers in Arms sera d'ailleurs le premier album de l'histoire à se vendre à plus d'un million d'exemplaires sur ce format qu'est le CD. La seconde innovation, c'est qu'il s'agit du tout premier album dont les claviers ont été séquencés et arrangés avec un ordinateur. Donc à l'époque, c'était un ordinateur Atari. Maintenant, ce serait totalement impossible de faire un album. Mais bon, c'était révolutionnaire pour l'époque. Et enfin, eh bien, il faut savoir que la vidéo du single Money for Nothing, donc single qui paraît en 45 tours le 24 juin 1985, ce sera la toute première vidéo diffusée sur MTV en Angleterre. Donc ça fait beaucoup de premières mondiales pour un seul album. C'est comme ça qu'on fabrique des albums mythiques. Mais assez parlé, hein, je pense qu'il est temps pour moi de vous souhaiter un bon week-end, de vous donner rendez-vous vendredi prochain pour de nouvelles aventures métal. Je peux vous annoncer d'ores et déjà qu'on parlera du nouvel album de Five Finger Death Punch, puisqu'il va sortir vendredi prochain, donc voilà, ce sera certainement l'album de la semaine, ou en tout cas, il en fera partie. On se quitte avec Money for Nothing de Dire Straits, revu et corrigé par le guitare héros grec Gus J. C'est un extrait de son album Fearless. Salut à tous, à très bientôt sur Back FM.
Majority.